Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, je reçois le professeur Lemerle et le docteur Joseph Sabat pour parler de l'accès au traitement contre le cancer dans les pays en développement. Nous verrons ce qui est entrepris d'ailleurs à Dakar par le professeur Claude Morera, qui est responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de Nantec. Et nous terminerons en parlant d'un tout autre sujet, un reportage de Marina Mielzarek sur un atelier du goût. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Mais on retrouve tout d'abord la chronique du mercredi d'Igor Strauss. Igor, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé à la prévention des cancers et alors particulièrement à l'impact de la pollution atmosphérique. Il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée à la fin du mois de janvier dans le New England Journal of Medicine.
Oui, il y a une étude qui remet au goût du jour le fameux proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors que notre santé et notre espérance de vie soient directement liées à la pollution de l'air, ça on le savait, clair, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on sait désormais calculer ce rapport pollution de l'air, espérance de vie.
Et alors concrètement, que dit cette étude ?
Alors, c'est une étude, vous l'avez dit, qui a été menée par trois chercheurs américains et qui a été publiée très récemment dans le New England Journal of Medicine. Et nos trois chercheurs ont montré qu'une réduction de la concentration de l'air en particules fines de 10 microgrammes par mètre cube permet d'augmenter l'espérance de vie de 0,6 ans en moyenne. Alors là, je ne sais pas si vous me suivez, Claire.
Vous allez nous le traduire en langage courant, ça veut dire quoi ?
Alors simplement, l'air que l'on respire, surtout dans les villes, est pollué, vous le savez. Parmi ces polluants, il y a le dioxyde d'azote et les particules fines. À chaque fois que je réduis cette pollution, l'espérance de vie augmente et le risque de contracter certaines maladies cardiovasculaires, par exemple, diminue. L'unité de valeur choisie pour mesurer le degré de pollution est le microgramme par mètre cube. Alors, je sais, c'est un peu barbare, mais c'est le terme. Donc, les études ont montré que si vous diminuez de 10 microgrammes la pollution de l'air aux Pays-Bas, par exemple, eh bien, vous vivrez un an de plus.
Et comment les chercheurs sont arrivés à ces résultats-là ?
Eh bien, ils ont analysé le degré de pollution dans 51 zones urbaines, des villes de toute taille, de 1960 à 2000. Alors, de 1970 à 2000, pourquoi ? Parce que le degré de pollution n'était pas le même. Et ils ont comparé toutes ces données et sont arrivés à une moyenne. La réduction de la pollution de l'air permet d'augmenter de 15% l'espérance de vie, ce qui est quand même beaucoup.
Et je crois que ces chiffres, c'est aux États-Unis. Est-ce qu'on a les mêmes chiffres sur l'Europe ?
Oui, et alors pour le coup, ils viennent d'une expertise de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, paru en 2008. Alors encore une fois, ça paraît très technique, mais c'est assez simple. Si le niveau de particules fines, ce polluant, passait de 20 à 15 microgrammes par mètre cube, donc une réduction de 5, eh bien on estime que 1300 à 1900 décès par cancer du poumon seraient évités chaque année dans 23 villes européennes. Vous vous rendez compte, Claire, c'est quand même assez énorme.
Et justement, Igor, est-ce que l'Union européenne s'est dotée du coup d'une norme et jusqu'à quel point tolère-t-on finalement la pollution de l'air ?
Eh bien, c'est là que le bât blesse, Claire. L'Union européenne s'est dotée d'une norme de 25 microgrammes par mètre cube. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en passant de 20 à 15, on évitait des milliers de décès. Mais l'Union européenne permet d'aller jusqu'à 25. Alors je vous laisse calculer le nombre de décès en plus que ça peut provoquer. On en revient à ce fameux principe de précaution. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de baisser les niveaux de pollution pour une meilleure santé publique ? Diminuer la pollution, évidemment, ça a un coût, mais traiter un cancer également. Et quand on sait que dépolluer l'air de la planète permet d'éviter des décès, eh bien on se demande pourquoi des décisions ne sont pas prises dans ce sens.
Aujourd'hui, nous parlons de l'accès au traitement contre le cancer dans les pays en développement avec le professeur Lemerle et le docteur Joseph Sabat. Professeur Lemerle, vous voulez peut-être réagir au propos d'Igor Strauss, justement, sur cette question de prévention ?
Oui, bien sûr, la prévention, c'est l'idéal. Pour ce qui est de l'information qu'il a présentée, elle date d'hier. Alors, pitié pour l'Union européenne, elle n'a pas encore pu changer ses normes.
Mais c'est lui le temps de...
Il faudrait encore que ce soit confirmé par des études prospectives, etc. Je pense que tout le monde est d'accord pour que l'air soit de plus en plus pure, mais les microparticules en question, ça doit être probablement ce qu'il y a de plus difficile à faire disparaître. Je n'en sais rien. Ça me paraît à projeter dans l'avenir, si vous voulez, plutôt que servir à instruire un procès.
C'est ça. Mais prenons du temps et on va suivre quand même ce qui se passe dans ce domaine. Nous avons maintenant au téléphone le professeur Claude Morera. Professeur Morera, bonjour.
Bonjour Carédon.
Vous êtes responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Le Dantec à Dakar. Vous travaillez régulièrement avec le professeur Lemerle, vous vous connaissez bien. On l'a dit, aujourd'hui c'est la journée mondiale du cancer. Est-ce que le Sénégal se mobilise à cette occasion?
Oui, tout à fait. Bonjour Monsieur Lemerle.
Salut Claude.
Alors, c'est vrai qu'il y a une très forte mobilisation qui s'est faite cette année. Nous avons fêté cette journée les deux années précédentes avec l'association des parents pour le soutien aux enfants atteints de cancer. Et le ministère nous avait un peu accompagnés dans ces manifestations. Cette année, c'est l'effet inverse qui s'est passé. Nous avons été invités le mois dernier par le ministère à nous réunir. Ils ont réuni toutes les associations et toutes les personnes impliquées dans le cancer. Et nous avons ensemble préparé cette journée mondiale du cancer. Et de très nombreuses choses ont déjà été faites et sont prévues. Nous avons, par exemple, lundi fait un point de presse autour du cancer et nous avons réuni un bon nombre de journalistes et parlé pendant toute la matinée du cancer. Le ministre de la Santé a fait hier une déclaration sur le cancer à propos de cette journée. Et aujourd'hui, l'Association des parents atteints de cancer pour le soutien aux enfants atteints de cancer a mis en place au niveau d'une des principales places de Dakar, la place de l'Indépendance, un stand d'information sur le cancer de l'enfant avec distribution de messages sous forme de flyers.
Et est-ce que cette mobilisation est suivie des faits? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que du coup, les patients viennent consulter plus tôt?
Oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer sur les manifestations, dimanche, nous avons les grandes manifestations publiques avec plusieurs associations qui vont nous rejoindre, les rollers, les cyclistes, les randonneurs. Et nous avons une grande marche, un grand circuit à faire à travers Dakar et des manifestations au niveau du service de pédiatrie.
Et entre autres pour inciter au dépistage, justement. Alors, est-ce que ça donne des résultats?
Oui, tout à fait. Alors, nous avons d'abord de plus en plus d'enfants qui sont pris en charge dans notre unité. En 2008, nous avons pris en charge 135 enfants atteints de cancer. Effectivement, comme pour le professeur Ndom, à Dakar, nous voyons de plus en plus de personnes qui viennent se faire traiter. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Et nous avons le sentiment qu'effectivement, ils viennent de plus en plus tôt. Il est peut-être difficile de l'affirmer pour le moment, mais nous avons des cancers de plus en plus nombreux, de plus en plus divers, et surtout qui viennent apparemment plus tôt, et ça se voit au niveau des résultats.
Et la prise en charge, justement, s'améliore?
Oui, cette prise en charge donc a été organisée depuis les années 2000 grâce au groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Et il y a beaucoup d'autres événements qui nous ont aidés dans cette prise en charge. Tout d'abord, la volonté locale, la création de l'unité par le service de pédiatrie. Et puis le grand projet MyCell Matter qui a été financé par Sanofi Aventis, et ça il faut le dire lorsque les laboratoires s'impliquent dans le mécénat. Donc financé par Sanofi Aventis et organisé par l'Union internationale de lutte contre le cancer. Donc ce projet aide de nombreux pays en développement à développer justement la prise en charge des cancers sous différents aspects. Et nous en avons bénéficié en 2006. Et puis grâce à l'implication des pouvoirs publics et surtout de nombreuses associations, Assistance Enfants Malades, l'ASEAC et de nouvelles associations qui se forment, c'est vrai que cette prise en charge est de plus en plus développée.
Elle commence à donner des résultats. Professeur Lemerle, je voudrais du coup vous faire réagir. Est-ce que vous essayez de mobiliser l'industrie pharmaceutique pour que le prix des traitements justement baisse, soit abordable dans les pays du Sud?
Oui. Oui et non, car ça dépend pas de moi, ni même de beaucoup de gens. Mais ce que je peux dire, c'est que, à force de rendre visite à nos amis de l'industrie pharmaceutique, la notion que le cancer est curable en Afrique, et finalement qu'il y a peut-être un marché de ce côté-là, est vraiment, je crois, rentrée dans les esprits de tous les grands groupes, et les choses se développent, indiscutable.
Docteur Sabah, effectivement, vous cherchez à mobiliser sur cette question.
Je confirme, nous travaillons avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques sur ou des donations ou des programmes d'accompagnement accès aux médicaments dans les différents pays, en Afrique, en Asie. Nous travaillons également sur les vaccins pour le HPV, pour la prévention du cancer du col. Donc oui, aujourd'hui, il y a une mobilisation à ce niveau.
Professeur Moreira, une dernière question. Le docteur Ndom, tout à l'heure, se plaignait du manque de médecins formés en cancérologie. Est-ce que la situation est la même au Sénégal?
Oui, tout à fait. Effectivement, beaucoup de feux sont ouverts au niveau de la société civile, je dirais même des pouvoirs publics. Le grand problème que l'on a, c'est les ressources humaines. Tout d'abord, au niveau du personnel paramédical, nous avons un manque très important d'infirmiers et d'infirmières. Et à ce niveau, le peu d'infirmiers qu'on a est vraiment débordé. Et surtout, pour les médecins, le cancer est effectivement toujours synonyme d'absence de moyens de prise en charge, et puis donc de désespoir, de souffrance et de mort. Et c'est vrai que peu de médecins veulent s'engager dans le cancer, mais c'est en train de bouger.
Et c'est ça, vous êtes en train de voulez faire changer les choses en disant qu'on arrive à traiter, on arrive à faire des progrès. Professeur Claude Moreira, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Le Dantec à Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Nous parlons aujourd'hui de l'accès au traitement contre le cancer dans les pays en développement. Alors les auditeurs sont nombreux à vouloir vous poser des questions. On a Mamadou qui nous appelle du Mali. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Bonjour, docteur.
Allez-y, bonjour. Nous vous écoutons. Posez votre question.
Bon, ma question, c'était de savoir, est-ce que si tout ça, le cancer est curable à 100%?
Alors, cette question est très importante. Professeur Lemerle, est-ce qu'un cancer peut être curable à 100%? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un cancer et être totalement guéri après traitement?
Ah oui, je ne dis pas que c'est tous les cas, mais bien sûr que oui. L'exemple le plus clair, c'est celui du lymphome de Burkitt, une tumeur typiquement africaine, qui est extrêmement rapide dans son évolution, extrêmement grave, et qui pourtant guérit dans des proportions très importantes, rien qu'avec de la chimiothérapie, et guérit complètement et définitivement.
Et c'est vraiment le message que vous voulez faire passer aujourd'hui.
Absolument.
Il y a certaines formes de cancer dont on guérit complètement.
Et notamment ce cancer typiquement africain.
Docteur Sabah?
Oui, et également, les chances de guérison augmentent considérablement quand on arrive à l'attraper
le plus tôt possible. D'où l'intérêt du dépistage. On en revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Merci beaucoup, Mamadou, de nous avoir appelé. Et on a Sama qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Sama, bonjour.
C'est Sama, Sama, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bon, en fait, moi, c'était par rapport au circuit, au coût et à la liste d'attente qui est très longue, par rapport au traitement. En fait, ma question, c'était par rapport au docteur Moreira. Parce que moi, je suis assistant social dans un centre de santé. Et on voit les malades, je voulais poser par rapport à l'amélioration qu'on peut faire pour la bonne prise en charge des malades.
C'est ça. Il y a un vrai problème quand même pour les patients de pouvoir arriver au bon centre qui les prend en charge. Il y a un vrai problème de coût des traitements. Docteur Sabah, est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Qu'est-ce que vous cherchez à faire pour que ce soit abordable pour les gens?
Bien entendu.
Parce que nous, on a une sécurité sociale en France. Finalement, si on a un cancer, c'est la sécurité sociale qui paye. Et ça ne nous coûte pas, c'est pas le cas ailleurs.
Non, et d'ailleurs, quand on regarde les ressources qui sont consacrées à la lutte contre le cancer, eh bien, uniquement 5% de ces ressources sont dédiées pour les pays en développement et 95% sont dans les pays développés. Donc, il y a un manque de ressources, il y a un moyen de faire quelque chose. Bien sûr, on ne peut pas tout faire dans le cancer, mais il y a aujourd'hui des cancers qu'on peut guérir, prévenir avec des moyens qui sont
Et là, est-ce que vous nous dire où est-ce que vous avez obtenu des bons résultats avec ce que vous faites?
Oui, je peux vous donner l'exemple de notre travail en Éthiopie où nous avons travaillé sur le dépistage et le traitement du cancer du sein avec l'hormonothérapie. Ça a commencé bien sûr à Addis Abeba au niveau de la capitale et puis progressivement on a pu l'étendre dans les au niveau des régions. Il y a aussi ça a provoqué une mobilisation donc au niveau du ministère de la Santé pour faire plus, pour faire des programmes de dépistage. Parce que vous savez, finalement, les politiques, eux aussi, ils ont des proches qui meurent du cancer. Et il suffit simplement de leur dire, de leur montrer l'ampleur, mais surtout de leur montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire.
Alors ça, c'était en Éthiopie, au Cambodge aussi, vous avez obtenu des résultats.
Au Cambodge, tout à fait, il y a un programme et il y a aussi très peu de moyens. Et là, ils ont en fait mis en place un système qui est intéressant par médecine pour aider les médecins locaux à faire le diagnostic et à pouvoir traiter.
Toujours et l'idée qu'on puisse se soigner même si on n'habite pas la capitale, quoi.
Par exemple, voilà.
Et au Soudan?
Et au Soudan, il y a eu une mobilisation, il y a un centre extrêmement actif à Khartoum. Vous savez, 80% du Soudan est rural, donc pas grand-chose, pas d'accès. Et il y a eu une connexion entre Khartoum et les différents villages pour essayer d'aider les patients.
Et professeur Lemaire, vous travaillez aussi, entre autres, beaucoup avec le Maroc qui progresse.
Le Maroc progresse énormément. Il y a une grande activité dans ce pays, dans tous les domaines, et notamment dans celui-là. Et il faut citer, d'une part, la grande activité des médecins et leur effort de formation et de coopération avec d'autres pays, comme les États-Unis et la France. Et il y a un effort des associations. Par exemple, ce sont des associations de parents qui fournissent tous les médicaments pour les services de pédiatrie, pour le cancer. Tous les médicaments.
Ça, c'est très important. Le rôle des associations de patients, de parents, de malades, vraiment important pour progresser. On a Sakalia qui nous appelle d'Abidjan et qui a une question à vous poser. Sakalia, bonjour.
Bonjour madame.
Nous vous écoutons.
Bon, oui, je voulais poser une question concernant en fait, ce qui provoque un peu le cancer chez l'homme.
Qu'est-ce qui provoque le cancer? C'est ça ce que vous voulez savoir. Et vous aviez quoi derrière cette question?
Bon, en fait, j'ai appris que quand tu es atteint du cancer, ça peut provoquer le cancer. Et la prostate.
Vous avez peur de savoir si c'est contagieux, c'est ça?
Ah justement, oui, justement.
Alors, est-ce qu'on sait un peu qu'est-ce qui provoque le cancer? Est-ce que le cancer est contagieux?
Non.
Non, c'est voilà, non. La réponse est ferme.
Non.
Non, vraiment pas.
Donc, absolument
ça,
pas.
Donc pas de crainte. Alors ça, c'est toujours par rapport aux maladies. On a toujours peur quand un proche attrape une maladie. Il n'y a pas de risque là-dessus.
En revanche, s'il y a une famille où tout le monde fume du matin au soir, tout le monde bénéficiera de la fumée, tout le monde fera un cancer des poumons. Mais ça, c'est pas de la contagion, c'est être soumis à la même cause.
C'est le mode de vie. Merci beaucoup, Sakalia, pour votre question. Est-ce qu'on sait, docteur Sabah, maintenant, et professeur Lemaire, je vous pose à tous les deux cette question, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant de façon concrète pour améliorer la lutte contre le cancer dans les pays en développement? On a parlé du dépistage. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre d'autre en place?
Oui, il y a beaucoup de cancers et je pense qu'il faut, dans les pays en développement, se concentrer sur les cancers qu'on peut prévenir, qu'on peut guérir, qu'on peut dépister à temps, où il y a des choses. Chez Axios, nous nous sommes concentrés sur les cancers chez la femme, notamment le cancer du sein et le cancer du col, qui est la première cause.
Alors le cancer du col de l'utérus, on sait qu'il y a un vaccin maintenant. Est-ce que ce vaccin va être disponible dans les pays en développement à un coût abordable?
Il y a un vaccin, j'espère qu'il va être disponible. Maintenant, nous travaillons avec le laboratoire Merck sur une donation de vaccins HPV pour certains programmes dans les pays les moins développés, les plus pauvres, parce qu'aujourd'hui avec ce vaccin c'est pour les jeunes filles et on ne sait pas très bien où les trouver, les jeunes filles, donc il faut des programmes de santé publique pour le faire.
Pour le cancer du sein, comment on peut progresser?
Alors pour le cancer du sein, l'idée c'est de provoquer le dépistage. Si on dépiste les femmes pour le cancer du col, il suffit de leur palper le sein pour savoir s'il y a un cancer ou pas. Il y a aujourd'hui aussi des progrès au niveau du traitement. Donc, si on le dépiste tôt, on peut enlever la tumeur très, très simplement et puis entraîner la guérison.
Sur le cancer du foie, je pense que vous allez nous parler du vaccin contre l'hépatite B.
Tout à fait. Le cancer du foie est un cancer difficile. Il y a des traitements, mais qui restent compliqués et longs et chers. Par contre, la prévention, elle est simple. Le vaccin de l'hépatite B, il est aujourd'hui abordable pour ces pays et il faut le diffuser.
Professeur Lemaire, quel est de votre point de vue ce qu'il faudrait faire maintenant, ce qu'il faudrait mettre en place pour améliorer justement l'accès au traitement?
Chez l'enfant, deux choses, formation des médecins, enfin,
les
infirmières, etc.
Les deux médecins africains ont insisté là-dessus.
Et information du public et des pouvoirs publics. Et je me tourne vers vous, nous avons besoin de la radio pour faire passer dans le moindre village des notions extrêmement simples concernant les cancers des enfants, en disant voilà, une grosse mâchoire énorme, un énorme ventre, c'est suspect, etc. Il y a des choses très simples à savoir et la radio doit pouvoir jouer un rôle énorme. Nos amis marocains viennent de travailler là-dessus et il faut continuer.
C'est ça. Et vous, vraiment, vous restez avec ce message, c'est que comme ça se guérit, ça se soigne, ça se guérit, il faut aller consulter.
Oui, oui. D'autant plus que ça évolue très vite et il ne faut pas arriver trop tard.
C'est vraiment très important. J'espère qu'on aura retenu au moins ce message-là. propose maintenant de nous intéresser à un tout autre sujet. Il s'agit du goût. Un tout autre sujet, d'ailleurs, pas tout à fait, parce qu'on sait que pour les malades du cancer, d'ailleurs, la perte du goût et du coup la perte de l'appétit est un problème. Alors, le Conseil général du Val-de-Marne a instauré depuis 2001 un programme Nutrition Santé pour le personnel des collèges et lycées. Marina Mielzarek est allée suivre une formation dispensée à Créteil, donc en région parisienne, par Nathalie Politzer de l'Institut du goût de Dijon.
Alors, on va reprendre le cours de la formation. Maintenant, on va s'occuper du goût au sens strict du terme, hein, la gustation, et donc la perception des saveurs. Et du coup, les termes salé, sucré, acide, amer. Attention, cette histoire de quatre saveurs, c'est vraiment une idée qui date, c'est une idée qui est vraiment dépassée. Maintenant, il faut se dire qu'on est capable de percevoir un très très grand nombre de saveurs. Par contre, on a peu de mots dans notre vocabulaire, on est pas vraiment capable de nommer avec précision toutes les nuances gustatives qu'on est capable de percevoir. Le goût qui est dit sucré, hein, la saveur sucrée, je vous avais dit, il existe différentes saveurs sucrées que vous êtes capable de discriminer. Et pourtant, vous n'avez qu'un seul mot pour en parler, c'est le mot sucré. Tout ça, ça va devenir un petit peu plus concret. J'espère que ça va vous marquer, hein, que vous allez bien mémoriser cette idée-là en faisant une dégustation. Vous allez prendre deux gobelets par personne et vous allez éventuellement les numéroter 1 et 2. Alors, je vous fais passer une solution sapide. Donc, sapide, c'est qu'il y a du goût, hein, de la saveur. Et celle-là, c'est la solution numéro 1. D'accord ? Donc, vous allez en verser un tout petit fond dans le gobelet numéro 1. Même chose avec la solution numéro 2. Vous vous servez un tout petit peu et puis vous faites passer. Donc, vous dégustez très, très attentivement la solution numéro 1. Éventuellement, vous vous rincez la bouche avec de l'eau.
Vous paraissez un petit peu sceptique.
Ah non, je suis concentré.
Qu'est-ce que vous avez goûté là, dans la timbale 1 et 2?
C'est dans du sucré, oui. Mais je trouve que c'est beaucoup trop dosé. L'intensité est trop importante. Ça me dégoûte. Hein, faut tester.
On va faire un tour de table. En commençant de ce côté-là. Donc vous allez à chaque fois me dire ce que vous avez perçu en comparant ces deux solutions sapides.
J'ai trouvé que les deux étaient sucrés.
Oui.
Mais pas de la même manière. Alors, comme j'ai goûté qu'une fois les deux, là, j'ai un petit peu du mal à faire la différence. Oui. J'ai senti une différence, j'ai du mal à l'exprimer en fait.
C'était une différence d'intensité ou de qualité ?
Plutôt de qualité. D'accord. Je trouvais pas qu'il y en avait une plus sucrée que l'autre, d'accord, mais c'était pas le même goût sucré.
Moi, j'avais l'impression que c'était la même chose, mais plus sucré le premier.
Moi, je décris exactement la même chose que ma camarade après Blandine. Sucré pour les deux, une douceur dans le premier cas agréable et un côté amer dans le deuxième cas très désagréable.
La première, horriblement sucrée, quasiment dégoûtante. Excusez-moi. La deuxième, moins sucrée. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose derrière. La perception est différente. Hein. Il y avait un petit quelque chose derrière, sans plus. Par contre, c'est vrai que là, tout à l'heure, on parlait que sur le vécu et que ça. Et c'est vrai que la première, j'ai trouvé que c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et toi, tu disais que c'était doux. Bon, perception différente.
Je peux vous demander, sans indiscrétion, pourquoi est-ce que vous avez demandé à faire cet atelier du goût éducation alimentaire ? Vous êtes institutrice, infirmière ? Infirmière. Bon, c'est un projet qui, au collège, existe depuis de nombreuses années. Et donc, on voulait un peu se renouveler, se remotiver peut-être.
Et pourquoi est-ce si important, cette approche du goût ?
Ben, je pense que c'est important pour que les élèves comprennent les mécanismes qui se mettent en place et puis découvrent des choses peut-être auxquelles ils n'étaient pas sensibles jusqu'ici, quoi. Ben, effectivement, qu'ils voient ce qui se met en place, ce qui se passe réellement au moment de goûter un aliment, etc. Et comment ils peuvent être influencés. Bon, nous, on insiste aussi beaucoup comment ils peuvent être influencés par les camarades ou par la vision d'un plat, comment on fait les menus, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit agréable, pour qu'ils aient envie de le goûter, etc. Par exemple, je vais vous dire au hasard, hein, un flan vanille qui serait vert, par exemple. Donc c'est vrai que spontanément, les élèves vont nous dire, bah, c'est à la menthe. Et puis alors, à ce moment-là, on va leur dire, bah, essayez de réfléchir individuellement, etc. Et vous allez voir que là, vous avez été influencé par quoi, etc. Donc ça fonctionnait, ils aimaient bien. Ils aimaient bien les élèves.
Et pourquoi dans une école et pourquoi auprès des jeunes? Ça vous paraît, j'allais dire, même fondamental, enfin faisant partie de l'éducation?
Ça fait partie de tout notre projet sur l'alimentation. Hein, donc c'est vrai que c'est un chapitre de tout le reste, mais je pense que c'est aussi peut-être apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne, comment notre organisme fonctionne, et peut-être qu'à ce moment-là, on peut être un peu plus sensible, avoir envie de goûter des choses, c'est fondamental quand même.
C'est juste pour vous une activité d'éveil, j'allais dire. Une éducation à la santé, ça veut dire quoi?
Pour moi, c'est de l'éducation à la santé. Hein, comme ça fait le projet de l'alimentation, éviter l'obésité, etc. Dans notre quotidien à l'infirmerie, on découvre des choses assez étonnantes. Hein.
C'est-à-dire, dites-nous.
Bah, effectivement, les chips, un petit peu n'importe comment, où on saute un repas sans aucun problème, et puis grignoter énormément. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait qu'on essaye un peu de remettre certaines bases.
La faute à qui? Aux parents, aux enfants, au mode de vie moderne, des enfants qui ne mangent pas forcément avec les parents à table?
Bah, on est au collège, hein, donc c'est aussi le début de l'adolescence où on a un petit peu envie de faire n'importe quoi, et même si les parents ont mis certaines règles, si on peut un petit peu les contourner, on en est ravis, quoi. Donc c'est un petit peu un ensemble. Alors après, c'est
ça vrai... passe par l'alimentation.
Ah bah oui, je crois que c'est un des meilleurs liens où effectivement on montre son indépendance, etc. Et des fois les parents nous le disent, ah bah oui, il arrête pas de grignoter, pourtant je le lui dis bien, etc. Mais bon, il s'ennuie, des fois ils sont stressés, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, ils vont aller grignoter, même si on leur dit l'inverse.
Merci pour ce reportage sur le goût. Professeur Lemaire, les docteurs Joseph Sabat, merci également. Je retiens en tout cas qu'on peut guérir du cancer, que c'est possible d'accéder au traitement dans les pays en développement. On progresse, mais il faut surtout se faire dépister. J'espère que le message sera passé. Au revoir à tous et à demain. Demain, nous parlerons de la lutte contre la malnutrition.